Vous écoutez, on lit pour vous.
Les troubles alimentaires fréquents chez les athlètes d'élite. Un texte d'Éric Desrosiers, paru le 30 juillet 2024 dans Le Devoir. Ce n'est pas parce qu'on est un sportif d'élite et qu'on va aux Jeux olympiques qu'on a le contrôle sur tous les déterminants de sa réussite. Pas même sur quelque chose d'aussi simple et essentiel que son alimentation. Cela peut même être le contraire. Parlez-en à la judoka Catherine Beauchemin-Pinard. Deuxième au classement mondial des moins de 63 kilos, la Montréalaise de 30 ans entamera son troisième concours olympique mardi 6 août 2024. La dernière fois, aux Jeux de Tokyo, elle avait remporté la médaille de bronze. Après les Jeux de 2021, elle a traversé une période de dépression. « J'étais épuisée. J'avais peur de ne pas être à la hauteur avec ma médaille aux Jeux. Je me réveillais la nuit et je pleurais à gros sanglots, car j'étais perdue », raconte-t-elle. Avec l'aide d'une psychologue, elle est sortie de cette mauvaise passe avec deux idées en tête, se qualifier pour les Jeux de Paris et mener à terme le projet de livre qu'elle caressait depuis des années sur la nutrition des athlètes et leurs troubles alimentaires. Son ouvrage, intitulé « Nourrir son corps, comment la nutrition m'a finalement permis de performer aux Jeux de Tokyo 2020 », paru aux éditions Crescendo en 2024, a été publié il y a un mois. Juste être heureuse. Mélange de récits de son parcours personnel, de principes de l'alimentation des athlètes d'élite, de trucs et de recettes, son ouvrage raconte notamment la « chute vers l'enfer » que la judoka a connue dans son entêtement à rester, par tous les moyens, dans la même catégorie de poids, moins 57 kilos, en dépit de la transformation de son corps à la fin de l'adolescence. Voulant bien faire, ses parents ont essayé de l'aider à respecter les régimes de plus en plus stricts qu'elle se fixait. « C'est normal, » dit-elle en entrevue, les gens ne connaissent pas la science de la nutrition des athlètes. Ils pensent que ce sont des sacrifices nécessaires. Inquiet pour sa santé, son entraîneur de l'époque l'encourageait, au contraire, à simplement accepter de passer à la catégorie de poids supérieur, faisant valoir que tout cela nuisait plus que cela n'aidait ses performances sportives. La principale intéressée a longtemps fait la sourde oreille, ayant peur de ce qui l'attendrait dans cette catégorie de poids. Moins 63 kilos, qu'elle ne connaissait pas, de perdre son financement sportif et de l'incidence sur son apparence physique. Épuisée par sa fixation de plus en plus maladive sur la nourriture, ses épisodes de boulimie et les pertes de poids massives qu'elle s'infligeait à la veille des compétitions, elle a finalement fait appel à une nutritionniste et à une psychologue spécialisée en problèmes alimentaires. « Je voulais juste, enfin, être heureuse, manger à ma faim et avoir une bonne relation avec la nourriture », dit Catherine Beauchemin-Pinard. « Maintenant, je comprends qu'une athlète bien dans sa peau va mieux performer qu'une athlète qui a un problème alimentaire. » Plus fréquent chez les athlètes et les femmes. On serait surpris de constater le faible niveau de connaissance en alimentation des athlètes d'élite lorsqu'ils débarquent, adolescents, à l'Institut national du sport du Québec, INS, dit Catherine Nolo, nutritionniste du sport, qui a révisé le livre de la judoka. Ils sont déjà champions canadiens, mais la moitié ne savent pas comment se faire du riz. Ils se fient à ce que leur ont dit leurs parents, leurs entraîneurs, leurs amis, les influenceurs sur les médias sociaux. Là, comme dans la population en général, on voit passer des modes qui s'appuient rarement sur la science. Régime sans gluten, cétogène, jeûne intermittent. Les troubles alimentaires sont fréquents chez les athlètes d'élite, poursuit l'experte. Le sport de haut niveau n'est pas nécessairement une cause première, comme le fait de grandir dans un milieu familial très rigide et exigeant, mais agit plutôt comme un accélérant. Leur prévalence est plus grande dans les sports artistiques jugés où l'apparence physique est valorisée, ainsi que dans les sports organisés autour de catégories de poids, comme les sports de combat, l'haltérophilie et certaines classes en aviron. Et comme dans le reste de la société, les troubles alimentaires sont aussi plus courants chez les femmes que chez les hommes, explique la nutritionniste. Les filles ont plus de problèmes d'image corporelle que les gars. Elles veulent être plus minces et répondre aux canons de beauté pendant que les gars vont être contents de prendre du poids ou de la masse musculaire. Pas besoin de se casser la tête. Pourtant, dit Catherine Nolou, les athlètes ne devraient pas avoir besoin de se casser la tête en ce qui a trait à leur alimentation. Le corps est bien fait pour nous dire ce dont on a besoin. Quand on a faim, il faut manger. Quand on n'a plus faim, on arrête. Reste à apprendre ensuite quelle quantité et quelle proportion de chacun des principaux groupes alimentaires il faut mettre dans l'assiette. C'est sûr que ça va être différent par rapport à monsieur et madame tout le monde qui ne passent pas 15 ou 20 heures à l'entraînement. « T'as envie de manger une poutine? Tu peux, » dit-elle. « Il faut peut-être juste choisir le bon moment. » Parlant de bon moment, Catherine Beauchemin-Pinard entendait bien profiter des Jeux de Paris pour ne pas seulement faire du judo. Gourmande, elle se promettait notamment de goûter à toutes sortes de bonnes choses. Comme une crêpe au Nutella? Pourquoi pas? J'ai le droit de tout manger. C'était « Les troubles alimentaires fréquents chez les athlètes d'élite », un texte d'Éric Desrosiers paru le 30 juillet 2024 dans Le Devoir.
Ces fois où l'avion est préférable à la voiture. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 26 juillet 2024 dans La Presse. Entre un road trip et un voyage en avion, y a-t-il un meilleur choix pour l'environnement? La question est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. La Presse fait le point avec plusieurs experts, chiffres à l'appui. Peut-on comparer l'empreinte carbone d'un road trip pour une destination quelconque avec celle de vacanciers qui s'y rendraient en avion? Demande Clément Lalancette. Transport, logement, alimentation. Ces deux voyages diffèrent sur de nombreux aspects. Mais ce qui occupe la plus grande part des émissions de gaz à effet de serre, GES, c'est le transport. Avance Yasmine Benbelaïd, chercheuse postdoctorante de la chaire Éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi. Anne de Bortoli, chercheuse du Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, CIRAIG, a justement comparé des trajets longue distance réalisé avec différents véhicules. Son analyse, effectuée pour un trajet Paris-Bordeaux, a été publiée en mars 2024 dans la revue Transportation Research Part D, Transport and Environment. La chercheuse a adapté, pour la presse, ces chiffres au contexte québécois. Les vacances d'été 2024 des Québécois en chiffres. Source, chaire du tourisme Transat, mai 2024, pour le ministère du Tourisme. 70 % des Québécois prévoient faire un voyage d'agrément. 70 % planifient un voyage au Canada et 26 % un voyage aux États-Unis. 35 % pensent faire un road trip. En voiture, plus on est, moins on pollue. Prenons l'exemple d'un voyage de 600 km environ, aller simple, typiquement un trajet Montréal-New York. Si une seule personne est de la partie, selon les calculs de la chercheuse, l'avion est moins polluant que la voiture à essence et beaucoup moins polluant qu'un véhicule utilitaire sport, VUS, ou qu'un véhicule récréatif, VR. En revanche, dès que l'on voyage à deux, l'avion devient moins intéressant. Le nombre de personnes dans l'avion ne bouge presque pas, mais on vient de multiplier par deux le nombre d'occupants dans l'auto. Dans le premier cas, L'empreinte de chaque passager reste la même, tandis que dans le second, elle diminue de moitié. Et c'est d'autant plus vrai, plus il y a de personnes dans la voiture, d'où l'intérêt du covoiturage. Dans les deux cas, le bus reste la meilleure option, suivi de la voiture électrique. Et même si l'on voyage dans d'autres provinces, comme en Alberta ou en Saskatchewan, où l'électricité est moins verte qu'au Québec, l'auto électrique émet environ un tiers de moins de GES que la voiture traditionnelle, souligne Anne de Bortoli. Comment calcule-t-on l'empreinte d'un trajet? Tout d'abord, il faut prendre en compte ce qu'on a consommé pendant le trajet, essence ou électricité pour la voiture, kérosène pour l'avion. Bien sûr, toutes les autos ne se valent pas. En général, plus elles sont lourdes, plus elles consomment au kilomètre. Il faut également calculer les GES émis lors de la production du carburant, de la construction et de l'entretien du véhicule et des infrastructures, aéroports, routes, et tenir compte des émissions générées en fin de vie. On répartit cela sur toute la durée d'utilisation du véhicule et on garde la fraction qui correspond au trajet considéré. On divise finalement le tout par le nombre de kilomètres parcourus et par le nombre d'occupants du véhicule. Vous écoutez? Ces fois où l'avion est préférable à la voiture. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 26 juillet 2024, dans la presse. Une foule de « ça dépend ». Ces chiffres restent cependant approximatifs et plusieurs facteurs pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. La chercheuse a pris ici l'exemple d'un VR qui serait une petite fourgonnette aménagée d'environ 3 tonnes. Un VR plus lourd verrait son empreinte augmenter. Les avions émettent des GES à haute altitude, ce qui est plus dommageable pour l'environnement qu'au niveau du sol. On multiplie parfois par 2 les GES de l'avion pour en tenir compte. Pour un trajet à 2 personnes ou plus, le VR deviendrait alors plus avantageux que l'avion. L'avion émet également plus de GES au moment du décollage et de l'atterrissage. Donc, un vol avec escale consommerait beaucoup plus qu'un vol direct. Pour la même raison, plus un trajet est long, comme Montréal-Vancouver, plus un vol direct devient intéressant en comparaison avec la voiture à essence, le VUS ou le VR. Aussi, si l'on voyage en première classe, nos émissions individuelles s'envolent, car on n'occupe plus de place qu'en classe économique. Et si l'on voyage dans un gros avion, il sera un plus grand émetteur, mais il pourra aussi transporter plus de personnes. Donc, tout dépend s'il est plein ou non. Repensez les voyages? Chaque voyage est unique. C'est très difficile à comparer. Résume Anthony, Côté-le-Duc, chargé de communication chez Équiterre. Outre le transport, il faudrait aussi calculer l'empreinte du logement, de ce que l'on mange, des activités, et de tenir compte des comportements, souligne Yasmine Benbelaïd. Lorsqu'on part en voyage, on prend souvent aussi des vacances de nos bonnes habitudes. On fait moins attention à nos déchets, on recycle moins. Ça joue aussi. Et au-delà des GES, on pourrait aussi s'interroger sur les conséquences du voyage, sur les communautés locales et sur les écosystèmes. Finalement, l'avion est parfois préférable à la voiture à essence et inversement. Mais ces moyens de transport restent très polluants et peu de solutions de rechange existent si l'on souhaite voyager loin de chez soi. Au-delà de ces aspects très mathématiques, on peut voir ça d'un point de vue un peu plus philosophique, avance M. Côté-le-Duc. Les vacances sont essentielles pour se reposer, pour vivre de nouvelles expériences. Mais on croit souvent que pour réussir des vacances, il faut voyager loin. Il faudrait peut-être plutôt se demander pourquoi on doit partir pour vivre ces expériences. Qu'est-ce que l'on va chercher si loin? Et le train? Au Canada, le train n'est pas un moyen de transport aussi vert qu'on pourrait le penser. Selon le trajet considéré, son empreinte peut grandement varier. Une étude réalisée en 2020 et publiée dans le Géographe canadien montre que prendre le train pour aller de Québec à Windsor a une moins grande empreinte que celle de l'avion. Mais pour les trains qui relient Montréal à Halifax ou Toronto à Vancouver, c'est le contraire. Ces trains sont vieux, lourds et inefficaces. Lâche, Thomas Green, conseiller principal en matière de politique climatique de la Fondation David Suzuki. Et souvent, ils transportent très peu de passagers. Mais si de plus en plus de gens prennent le train, ça peut également pousser le gouvernement à agir pour le moderniser, souligne Yasmine Benbelaïd. Autres nouvelles écologiques. 1 million. Lawrence McAuley, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a dévoilé le 22 juillet 2024 les noms des 13 demi-finalistes du défi de réduction du méthane agricole qui s'efforce de développer des pratiques, des technologies et des processus évolutifs et économiquement viables pour réduire les émissions de méthane entérique produites par les bovins. Un maximum de 2 prix, allant jusqu'à $1 million, seront remis aux innovateurs qui auront le mieux démontré que leur solution peut être appliquée à grande échelle. Feu rouge. Le festival belge de musique électronique Tomorrowland bataille avec les autorités sur la question de l'interdiction des gobelets en plastique à usage unique qu'il a décidé de contourner au risque de ternir son image aux yeux des défenseurs de l'environnement. Ce festival, et qui a lieu à la fin de juillet, attire chaque année environ 400 000 personnes. C'est l'un des plus grands rendez-vous au monde pour les fans de musique électronique. Au début de juillet 2024, alors qu'il négociait depuis des mois l'obtention d'une dérogation pour pouvoir écouler son stock de gobelets jetables, le festival a finalement décidé de désobéir. C'est une infraction à la loi. Selon les médias, l'amende pourrait atteindre 2 millions d'euros. Il reste à savoir si l'administration flamande décidera effectivement d'enclencher des poursuites. Feu vert. À vos marques. Prêt? Photographier. Chaque année, début août, des milliers de personnes, des néophytes aux plus chevronnés, documentent la nature qui les entoure, où qu'ils soient au Canada, à l'occasion du grand BioBlitz de conservation de la nature Canada, CNC. Qu'il s'agisse d'oiseaux, d'insectes ou de plantes, ces photographies aideront les scientifiques et les spécialistes de la conservation à cartographier la répartition des espèces au pays et à suivre l'évolution des écosystèmes au fil du temps. En 2024, c'était la 4e édition du Grand BioBlitz. Au cours des éditions précédentes, les participants ont soumis au total plus de 147 000 observations et documenté plus de 7 600 espèces. C'était « Ces fois où l'avion est préférable à la voiture », un texte de Chloé Bourquin, paru le 26 juillet 2024 dans La Presse.
L'humour est-il un de nos derniers refuges? Un texte de Nathalie Collard, paru le 18 juillet 2024 dans La Presse. À une époque où on s'inquiète beaucoup de la polarisation, où les gens s'engueulent pour un rien dans les réseaux sociaux, est-il plus facile de se retrouver dans le rire? Nathalie Collard est allée assister à des soirées d'humour pour le savoir. Un lundi soir de juillet, au bar à vin Annette, dans le quartier du Technopôle Angus. C'est la première fois que cet établissement, ouvert en 2023, organise une soirée d'humour. Au programme, deux humoristes de la relève, Josiane Aubuchon et Anthony Rémillard. À 20h30, le restaurant est plein. Des trentenaires et quarantenaires, professionnels pour la plupart, si je me fie aux réponses recueillies par l'animateur de la soirée, Charles Pellerin, un monteur vidéo, un cuisinier, une travailleuse sociale, un vendeur d'auto, une enseignante, un médecin. Ce n'était pas notre clientèle habituelle, affirme José Préfontaine, directrice de salle, à qui j'ai donné un coup de fil le lendemain. Le bar a décidé de consacrer les deux premiers lundis de juillet à l'humour, parce que ce sont les dates habituelles du festival Juste pour rire. Vu le succès de cette première édition, Annette pourrait bien en faire un rendez-vous mensuel. Je suis également allée au Terminal, sur l'avenue du Mont-Royal et au Bordel, dans le quartier des spectacles. Des lieux où on présente un humour que je qualifierais de mainstream, des lieux fréquentés par le citoyen lambda qui souhaite rire sans nécessairement se faire brasser la cage. Mon autre critère, une formule open mic pour entendre le plus d'humoristes possible. Le but de ma petite tournée non scientifique, avoir une idée de ce qui fait rire les gens. Un exercice absolument impressionniste, j'en conviens. Sans compter que je n'avais jamais mis les pieds dans un comedy club de ma vie. C'est dans le regard d'une novice que je partage ici. Première observation. Le public des soirées auxquelles j'ai assisté était très homogène. Blanc, majoritairement dans la vingtaine ou la trentaine. Si l'auditoire était assez mixte, il était majoritairement masculin sur la scène. Une femme sur trois humoristes, chez Annette, deux sur six au Bordel et une seule sur six au Terminal. Tous ces humoristes ont une approche semblable. Leur humour est centré sur l'individu, l'expérience personnelle et l'observation du quotidien. Ils sont de leur temps, observe l'historien de l'humour Robert Aird. En disant cela, je ne parle pas de leur génération, mais bien de leur époque qui est assez apolitique. On se regarde tous beaucoup le nombril. Je me demande si ce n'est pas une façon d'éviter la pelure de banane à une époque où, paraît-il, on ne peut plus rien dire. Parler de soi, c'est sécuritaire. Parler de soi, c'est quand même politique, souligne Emmanuel Choquette, chercheur à l'Observatoire de l'humour. N'empêche, on est loin du regard critique d'Yvon Deschamps ou des apartistes qui varlopaient sans pitié le pouvoir et les institutions. Or, à l'exception d'une blagounette sur le débat Trump-Biden, la politique était absente des soirées auxquelles j'ai assisté. Sans doute que mon expérience aurait été différente si j'étais allée dans des soirées plus marginales. Je pense entre autres au spectacle québécoise qui a lieu ce jeudi au Housegang Plaza. L'humour est très diversifié au Québec, me rassure Emmanuel Choquette, qui est également professeur de communication publique à l'Université de Sherbrooke. On peut entendre dans les réseaux alternatifs des propos anticapitalistes, féministes, environnementalistes. On observe aussi un propos plus incisif chez des humoristes aguerris comme Anas Asuna, qui joue sur le malaise des Blancs, ou Catherine Levaque et Ève Côté, qui parlent d'agressions sexuelles. Si je n'ai pas entendu de blagues politiques, j'ai par contre entendu beaucoup de jokes de cul. C'est le ressort comique le plus répandu, celui qui fait rire presque à tout coup, même quand c'est plus ou moins drôle. Une seule personne prendra la peine de préciser qu'elle parle d'un point de vue hétérosexuel. Les autres ont tous semblé le tenir pour acquis. Parmi les autres thèmes abordés, les applications de rencontres, la vie de couple, la séparation, l'importance des plateformes numériques dans nos vies, la vie d'adulte, la santé mentale, la famille, les chiens. On rit majoritairement des petits irritants de la vie quotidienne et de nos angoisses existentielles. Et si je me fie à la réaction du public, on partage pas mal les mêmes. Depuis le milieu des années 1990, l'humour se concentre sur la sphère intime et privée, souligne Robert Aird, qui est l'auteur de nombreux ouvrages, dont l'histoire de l'humour au Québec. C'est normal chez les humoristes qui sortent de l'école de l'humour. Ils sont jeunes, ils parlent de ce qu'ils connaissent. L'altérité, c'est-à-dire ce qui nous différencie des autres, que ce soit notre classe sociale, notre couleur de peau ou notre orientation sexuelle, ne semble pas être une source d'inspiration. On rit beaucoup de soi, moins des autres. Les deux seuls humoristes qui ont osé des blagues sur les différences culturelles étaient eux-mêmes issus de la diversité. D'origine haïtienne, Mi Benson Sylvain m'a fait mourir de rire en parlant de l'éducation reçue par sa mère qu'il comparait à celle de ses amis québécois de souche. Se présentant comme musulmane, Doua Kachache a quant à elle fait mouche en évoquant sa relation aux hommes, fortement influencée par l'éducation reçue par son père. En passant, je n'ai pas entendu une seule fois le mot « woke ». Ça fait du bien. Je le répète, ma petite enquête n'a absolument rien de scientifique. Mais durant trois soirées, dans des salles pleines ou archi-pleines, entourées de gens dont je ne partage sûrement pas toutes les opinions, j'ai pu constater que malgré nos différences, il y avait encore moyen de se retrouver en riant. C'était « L'humour est-il un de nos derniers refuges ?» un texte de Nathalie Collard, paru le 18 juillet 2024 dans la presse.